Le 18-20, France Inter est ouvert. Installez-vous, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du lundi 28 juin avec le journal d'Anaïs Feuga. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir, c'est la fin des calculs dans l'euro, il faut gagner.
Et oui, car c'est le premier match à élimination directe des Bleus, tout à l'heure à Bucarest contre la Suisse. Faut-il se méfier des footballeurs suisses? Nous serons à Bucarest dès le début du journal. Le président de la République dans les Hauts-de-France ce matin avec le vainqueur des régionales d'hier, Xavier Bertrand. Relance économique, vante Emmanuel Macron. À Dijon, le parquet ouvre une enquête après la découverte dans une forêt de caisses pleines de professions de foi non distribuées. Comment accélérer la vaccination contre le Covid en France? L'Académie de médecine propose de ne plus rembourser les tests, pas pour tout de suite, dit le porte-parole du gouvernement. On fait le point. Le Puy-de-Dôme, victime de violents orages, un village ravagé par une coulée de boue, nous y serons. Et puis nous en serons aussi à Pontivy, arrivée hécatombe sur le Tour de France. Victoire d'étape pour le Belge Tim Merlier.
Et à 18h15, un jour dans le monde, savez-vous pourquoi la Chine, après n'avoir juré que paro, ne veut plus entendre parler des bitcoins? Savez-vous pourquoi elle fait déménager les mines de bitcoins? Savez-vous qu'Elon Musk, après avoir dit oui et puis non à la crypto-monnaie, entend dire oui à nouveau, à condition de faire une monnaie verte? Vous ne savez rien de tout ça? Eh bien écoutez-nous, on va essayer de vous expliquer tout ce que cela veut dire, et c'est avec notre premier invité. À 19h20, c'est le téléphone sonne. Évidemment, on commente à froid les résultats d'hier soir, les résultats électoraux, ce que ça vous inspire, surtout pour l'année électorale qui s'annonce. La gamelle de La République En Marche et du Front National, les têtes de région qui ne bougent pas, la revanche de l'ancien monde ou pas, et toujours cette abstention géante. Vous connaissez le chemin, 01 45 24 7000.
France Inter.
Le quart de finale de l'Euro au bout des crampons.
Premier match à élimination directe pour les Français dans l'Euro de football ce soir contre la Suisse, huitième de finale. Alors côté pile, un adversaire qui n'a pas battu la France depuis 1992, les Bleus qui n'ont pas perdu en compétition depuis 19 rencontres. Côté face, des joueurs enfermés 20 heures sur 24 depuis un mois, des pépins physiques et un début d'Euro, il faut bien l'avouer, qu'on aurait pu imaginer plus flamboyant, mais pas de quoi perturber. Mais malgré tout, la préparation de Didier Deschamps.
Mon objectif, c'est de mettre tous les joueurs dans leur meilleure position pour qu'ils soient le plus performants. C'est pas que je m'adapte à l'adversaire. J'analyse les points forts et les points faibles. Et quand je fais un choix de départ, c'est toujours dans le même sens. C'est pour être le plus dangereux pour l'équipe adverse. Mais pour savoir ce qui décide, si c'est pour vous rassurer, c'est moi qui prends les décisions. Ouais.
Voilà, Didier Deschamps qui s'adapte donc, hein, car à Bucarest, il faudra tout de même se méfier. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir Anaïs.
Vous suivrez cette rencontre tout à l'heure. Alors, quels sont les Suisses auxquels il faut faire attention?
Ah ben, il y en a un particulièrement, il s'appelle Sherdan Shaqiri. C'est le dépositaire du jeu de cette équipe helvétique. C'est un joueur sur lequel toute cette nation compte, et cela depuis de très très nombreuses années, puisqu'il a été impliqué notamment sur plus de la moitié des buts de l'équipe suisse depuis 7 ans, depuis 2014. C'est un joueur qui évolue plutôt en attaque, même s'il est repositionné actuellement dans l'axe du terrain. Un joueur d'1m69, 29 ans, pleine maturité. C'est ce qu'on dit pour les footballeurs, surtout les joueurs offensifs. Et c'est un joueur qui évolue également à Liverpool depuis 3 ans. Il a été champion d'Europe une fois avec ce club, une autre fois avec le Bayern de Munich. Et là, en club, il est plutôt joker de luxe. Alors aujourd'hui, face à la France, contre qui eh bien, il n'a jamais marqué, Sherdan Shaqiri souhaite évidemment rompre la malédiction, notamment face à Hugo Lloris, parce que pour l'instant, c'est vrai que pour Shaqiri, ça ne rigole pas quand il joue contre les Bleus.
Merci Jean-Pierre Blimaud. France-Suisse, 8e de finale, coup d'envoi à 21h à Bucarest. Pour un ticket donc en quart contre la Croatie ou l'Espagne, le match vient de débuter.
Shaqiri qui ne rigole pas, ça n'est pas validé, je voudrais le dire officiellement. Allez, les mauvais résultats de la majorité présidentielle ne semblent pas affecter Emmanuel Macron.
Le président de la République reconnaît du bout des lèvres que l'abstention dit beaucoup de choses. Moins de 35% des électeurs se sont déplacés hier. Le pire score au régional pour un parti au pouvoir, 7% sur l'ensemble de la France pour La République En Marche. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cela qu'Emmanuel Macron a envie de commenter. Le président est à Versailles ce soir avec 150 patrons pour Choose France. Inauguration demain des locaux parisiens de JP Morgan. Ce matin, il était dans les Hauts-de-France pour louer la relance économique chez Renault Douai avec l'implantation d'une méga usine de batteries. 1000 emplois promis d'ici à 2024. Maxence Lambrecq, vous avez suivi cette visite sur les terres de Xavier Bertrand, largement réélu, lui, et qui se voit déjà en rival pour 2022.
Quand le premier multiplie les selfies,
vous allez bien ?
Le second s'éloigne des caméras. Quand le premier parle anglais avec le patron du groupe chinois Envision, le second discute avec un technicien accoudé à la chaîne de montage. Entre les deux hommes, un seul échange, courtois.
Bonjour, monsieur le président du Conseil régional, vous allez bien ?
Ah,
félicitations.
Peu après, quand Emmanuel Macron vante son bilan, Xavier Bertrand veut évidemment en faire autant. Mais jusqu'au dernier moment, l'Élysée a voulu me priver de micro, dit-il.
Imaginez, on ne crée plus d'emplois industriels depuis presque 20 ans. On recrée des emplois industriels dans notre pays.
Pas la moindre allusion à la claque d'hier soir. Le chef de l'État vante les investissements étrangers comme si de rien n'était.
On a eu une politique d'accueil que j'ai assumée. On m'a donné tous les qualificatifs quand j'ai fait ça. Mais on en a les résultats.
10 minutes plus tard...
La région, monsieur le Président, s'est d'ores et déjà engagée pour que nous puissions lancer des appels à projets pour le recyclage des batteries.
Batteries chargées à plein en ce qui le concerne. Cette photo l'installe encore un peu plus dans le costume du candidat. Mais ce n'était pas le moment de faire le kéké, confie-t-il en aparté.
Il ne faut pas oublier qu'avant les campagnes électorales, il y a l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est plus important que le reste. Ça, je n'en démordrai pas et je ne changerai pas ma ligne de conduite.
Garder, malgré tout, de bonnes relations avec l'État pour continuer d'afficher des résultats. Sa région comme première vitrine pour 2022. Douai, Maxence Lambrec, France Inter.
Les régions, on le rappelle et on en parle au téléphone, sonnent d'une stabilité quasi parfaite. Aucun basculement. Les 13 présidents de droite ou de gauche reconduits. À peine plus significatif pour les départements. Sur la 95 conseils départementaux, 5 passent de gauche à droite, 2 font le chemin inverse. Et la polémique sur la distribution des professions de foi n'est pas retombée entre les deux tours. En Sarthe, dans plusieurs communes, les enveloppes ont été distribuées dans certaines rues, mais pas dans d'autres. Bref, au bureau de vote hier, on ne parlait que de ça. Reportage France Bleu Maine de Steven Gouaillet à Alonne.
À voter sans même avoir reçu les programmes, en tout cas comme pour Isabelle, sans les professions de foi complètes.
Au premier tour, il n'y a eu que les départementales et au deuxième tour, il n'y a eu que les régionales.
Et c'est même pire, à quelques mètres de là, pour Monique et Gérard.
Nous, on n'a pas eu.
Et la factrice, elle t'a dit, non, je n'ai pas votre nom, je ne peux pas vous mettre.
Elle ne peut rien faire. Au premier vote, c'était pareil, on n'avait pas non plus.
Parmi les électeurs, comme Christian, il y a un responsable tout désigné.
La boîte Adrexo qui faisait ça... n'était pas compétente pour faire ce boulot-là. Hein.
Le maire Gilles de Proust a même reçu plusieurs témoignages d'Alonnais sur son téléphone portable.
Une dame qui m'a alerté, elle a eu dans sa boîte aux lettres 3 enveloppes de profession de foi, 2 gens qui ont habité il y a très fort longtemps au-dessus de chez elle, ça a été mis dans sa boîte aux lettres.
En cause d'après lui, la désorganisation totale ces derniers jours de la société Adrexo.
Moi j'ai vu, y compris vendredi soir, j'étais encore en porte-à-porte sur un quartier d'Alonne, où j'ai vu un jeune homme étudiant, mais c'est pas de sa faute, qui a été recruté en début de semaine, je crois, pour distribuer. Il connaissait pas la ville, il connaissait pas... Donc c'est une catastrophe.
Pour le maire, la situation est presque pire que lors du premier tour. Il réclame désormais une réponse forte du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Et puis le parquet de Dijon a ouvert une enquête après la découverte dans une forêt de 3 caisses qui contenaient les professions de foi des candidats au premier tour des régionales et qui devaient être distribuées par Adrexo. 2 salariés doivent être entendus. La société sera auditionnée demain devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Pas de remaniement attendu, en tout cas après à ces élections, mais sans doute une nouvelle feuille de route pour les 10 prochains mois jusqu'à l'élection présidentielle. Le président de la République devrait s'exprimer mi-juillet, dit le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal qui s'interroge aussi sur le non-remboursement des tests Covid. La question se posera pour la rentrée. Bonsoir Véronique Julia.
Bonsoir.
Le porte-parole du gouvernement clôt pour l'instant un débat qui commençait à monter.
Oui, en fait, c'est l'Académie de médecine qui a lancé le débat en fin de semaine dernière. Une sorte de coup de gueule adressé à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. L'Académie se demande en effet pourquoi l'assurance maladie, donc la solidarité nationale, devrait prendre en charge les tests qui leur seront demandés pour voyager. Après tout, si ces tests de convenance n'étaient plus remboursés, ça pourrait les inciter justement à se faire vacciner. Le test PCR coûte en effet, rappelons-le, une 50aine d'euros. Le problème que soulève Gabriel Attal, c'est que les Français qui ne sont pas encore pleinement vaccinés aujourd'hui n'en sont pas tous responsables, faute d'être éligibles au début ou même d'avoir pu décrocher un rendez-vous assez tôt. Certains attendent encore pour avoir leur deuxième dose, leur faire payer le test cet été serait donc d'après lui assez injuste. C'est pour ça que le sujet est remis à la rentrée de septembre.
Et Véronique, est-ce qu'on est les seuls en France à faire ces tests gratuits ?
C'est vrai que la gratuité des tests PCR est assez peu répandue. En Europe, le Danemark et la Norvège ne font rien payer non plus. Ailleurs, on doit sortir la carte bleue. Et les prix sont extrêmement hétérogènes. Ça va de 30 à 300 euros selon les pays pour un PCR. Pour les antigéniques, en revanche, ça peut être gratuit. À Berlin, par exemple, c'est le cas. Le choix de la gratuité en France, vous le savez, c'était pour qu'on se dépiste le plus possible, même sans symptômes, que le prix ne soit pas un frein. Et de fait, la France a beaucoup testé, jusqu'à plus de 2 millions de tests par semaine, un tout petit peu moins ces dernières semaines.
Merci Véronique Julia. L'Europe met en place jeudi le certificat sanitaire pour voyager d'un pays à l'autre, mais l'Espagne demande de nouveau des tests pour les touristes britanniques devant l'augmentation des contaminations. Hong Kong va interdire tous les vols en provenance du Royaume-Uni pour tenter de freiner les contaminations au variant Delta, lequel variant fait des ravages en Russie. Encore des records de décès quotidiens annoncés pour aujourd'hui à Moscou et Saint-Pétersbourg. Le quart de finale de l'Euro prévu vendredi est toutefois maintenu. Une épaisse fumée au-dessus de Londres cet après-midi. Spectaculaire incendie près d'une station de train et de métro au sud de la Tamise. Les témoins parlent d'une explosion. L'incident n'est pas de nature terroriste, dit la police.
11 départements, Anaïs, placés en vigilance orange.
Et la France n'a pas fini avec les orages. L'est du pays est concerné. Et dans le Puy-de-Dôme, les habitants de Sauvagnat-Sainte-Marthe près d'Issoire ont cru que le ciel leur tombait sur la tête, puis que la terre traversait leur village. 60 mm d'eau en 6 heures hier et une coulée de boue impressionnante qui a emporté voitures et cuves de fioul. Dominique Manon, les pompiers se relayent pour pomper la boue au milieu d'habitants traumatisés.
Il faudra du temps pour se remettre d'une telle nuit. Germain, par exemple, a vu la porte de sa maison céder sous la violence des eaux. En 30 secondes, sa cuisine et son salon au rez-de-chaussée ont été inondés.
Ça fait un choc émotionnel parce que j'ai vu les cartables de mes enfants qui flottaient sur l'eau.
Germain, qui très vite, bien sûr, a commencé le nettoyage.
Vous pouvez voir, c'est une boue qui est très très fine. Tout ça, ça vient des cultures, des champs qui sont au-dessus de Sauvagnat. Il faut attendre que ça sèche maintenant. On verra avec les assurances. De toute façon, je pense qu'on va être déclaré catastrophe naturelle. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça.
Chez Solange, un peu plus loin, c'est le jardin et la cave qui ont souffert. Elle fait l'inventaire avec Virginie, venue lui donner un coup de main.
On a sauvé quelques bouteilles de champagne, un peu de vaisselle.
Et oui, parce que j'avais ma belle vaisselle des jours de fête.
Le problème de Solange, ça a ouvert son portail et elle a récupéré tout le village dans sa cour. Il y a plein de choses dans le jardin qui ne sont pas à elle, en fait.
Ah, la remorque est arrivée.
Ah non, c'est pas à elle. C'est à quelqu'un de la rue bien plus haut.
Du côté des pompiers, plusieurs sujets d'inquiétude. Les carcasses de voitures difficiles à évacuer et ses cuves de fioul renversées. Le commandant Stéphane Cubizol coordonne les secours.
On a des quantités d'hydrocarbures qui ont été relâchées, mais vu les quantités d'eau, il y a eu une certaine dilution qui s'est opérée.
Une cellule risque chimique venue de Rion doit surveiller le secteur.
Reportage Dominique Manon, France Bleu, pays d'Auvergne. Le point final aujourd'hui à la controverse sur la chasse à la glu, cette méthode utilisée dans le sud-est de la France qui consiste à piéger grives et merles sur des tiges enduites de colle, puis à les mettre en cage pour en attirer d'autres. Jugé contraire au droit européen, le Conseil d'État la juge définitivement illégale et annule toutes les dérogations accordées par l'État français. Et puis le bac, encore revu et corrigé, les épreuves communes devraient être abandonnées à la rentrée pour renforcer le contrôle continu. On en parle dans le journal de 19h. Décidément, la Bretagne laissera cette année coups et bosses aux coureurs du Tour de France. Arrivé il y a une demi-heure de la troisième étape, étape plate de 182 km entre Lorient et Pontivy, mais après la chute de samedi en pleine étape, voici donc ce soir un final hécatombe. Fanny Lechevestrier, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Remporté par le Belge Tim Merlier.
Oui, Tim Merlier, coéquipier de Mathieu Van Der Poel, le maillot jaune, vainqueur au sprint au milieu du chaos, car vous l'avez dit, l'image qui reste en tête ce soir, ce sont ces chutes qui se multiplient, plus spectaculaires et douloureuses les unes que les autres. Roglic, Thomas, deux des favoris du Tour, en ont fait les frais aujourd'hui. Les sprinteurs Arnaud Démare, Cadel Ewan et Peter Sagan aussi. Et pas de spectatrice à incriminer ce soir. Il y a quelques minutes, la ligne d'arrivée à peine franchie, plusieurs coureurs s'en sont pris au tracé, trop dangereux, sur des routes trop étroites. Ce matin, avant le départ d'ailleurs, plusieurs redoutaient le scénario qui s'est produit. D'autres coureurs, c'est à souligner, mettent eux en cause le comportement des cyclistes de plus en plus égoïstes et ne pensant qu'à eux. Une certitude, Thomas et Roglic ont peut-être perdu le tour ce soir sur chute dès la troisième étape.
Merci Fanny Lechevestrier à Pontivec, Lucien Lefebvre en restant en Bretagne demain. On espère une étape plus calme entre Redon et Fougères.
Merci beaucoup Anaïs Feuga. Tout à l'heure évidemment dans Un jour dans le monde, sous les radars, vous nous emmènerez dans un hôtel avec vue. Je n'en dis pas plus. Une sacrée vue même.
Sacrée vue.
Ce soir, tout ce que vous ne comprenez pas sur le Bitcoin, les Chinois qui retournent leur veste, etc. On essaiera de vous expliquer, surtout de vous faire comprendre. Et puis, à 19h20, c'est le téléphone sonne. À vous de jouer pour commenter le deuxième tour de ces élections régionales, les régions qui gardent leur couleur d'origine, le Rassemblement National et La République En Marche qui mangent la poussière. Qu'est-ce que ça dit pour l'année électorale qui s'annonce? Le numéro, vous l'avez, c'est le 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Élodie Calac, bonsoir. Encore des orages au programme de ce soir?
Oui, bonsoir à tous. En effet, sur bon nombre de régions, alors c'est vraiment dans l'Est qu'ils peuvent être violents, notamment sur les départements en vigilance orange, du nord du Massif central vers la Haute-Savoie jusqu'en Alsace, avec des pluies parfois intenses, de la grêle, de fortes rafales de vent. Ils vont perdre en intensité en cours de nuit prochaine. Demain matin, on aura encore des averses, surtout entre le sud-ouest et le nord-est. Ce sera plus agréable des Pyrénées vers les Alpes et la Méditerranée, avec de belles éclaircies. Et puis pour les températures, 10 à 17 degrés jusqu'à 24 à Nice.
Et aussi, reprise des orages dans l'après-midi, Élodie.
Oui, sur une grande partie nord, ce sera à nouveau instable avec des éclaircies, mais aussi des averses orageuses. Elles seront plus espacées en allant vers l'océan, mais elles se renforceront au nord de la Seine en soirée, et puis de l'Aquitaine vers la Méditerranée, le sud de Rhône-Alpes. Là, ce sera calme et souvent bien ensoleillé, avec des températures quand même plus fraîches qu'aujourd'hui, souvent 17 à 24 degrés, et encore 27 à 31 en Méditerranée.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France. À tout à l'heure, après 19h.